Le journal, Mireille Boukassa. Un chauffeur de bus tué hier soir à Kasengesi, à 20 km de Goma, lors d'une attaque par des hommes armés non identifiés. L'association des chauffeurs du Congo de la province du Nord Kivu attribue l'attaque aux militaires FRDC. Les détails dans ce journal. Journaliste en danger réagit au blocage de l'accréditation en RDC des journalistes de Radio France Internationale. Pour JED, cette situation scandaleuse est une atteinte à la liberté de l'information. 500 alevins de tilapia distribués hier à plus de 60 familles de pisciculteurs à Kisangani, une distribution qui s'inscrit dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire. Le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un bus a été attaqué hier soir par des hommes armés non identifiés à Kasengesi, un village situé à 20 km de Goma. Seul le chauffeur du bus a été tué à bout portant. Information confirmée par l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, qui soupçonne des soldats FRDC cantonnés au même village d'être à la base de cette attaque. Il y a 3 semaines, un autre chauffeur du bus a été tué au même endroit, toujours par des hommes armés non identifiés. Jean-Paul Bassila.
Selon l'association des chauffeurs du Congo ASECO, cette attaque est survenue hier aux environs des 19h. La même association affirme que ces bus venaient des Minova, à une cinquantaine de kilomètres des Goma. Il n'y avait à son bord que les chauffeurs et les convoyeurs et transportaient des feuilles de manioc. Seul le chauffeur a été tué par les assaillants, déçu de n'avoir pas trouvé des biens à piller, selon les témoignages du rescapé. Tout en soupçonnant des soldats FRDC cantonnés dans ce village d'être responsables de cette attaque, cette association déplore le fait que leurs membres aient connu 3 attaques meurtrières sur le même endroit en l'espace de 2 mois. Vianney Mouindo, président de l'ASECO à Goma.
À Kasengesi, il y a 2 mois, on a attaqué un minibus encore. Le chauffeur a été grièvement blessé et il y a eu 4 morts. Mais sans suite, il y a 3 semaines, on a tué encore un chauffeur avec plusieurs blessés encore. Sans suite. Or, là où on est en train de nous attaquer, les militaires sont de part et d'autre. Qui nous tient? Ils disent non, ce sont les hommes armés non encore identifiés. Depuis quand? Les hommes armés non encore identifiés entre 2 camps.
Le village de Kasengesi est situé entre la ville de Goma et la cité de Sake, d'où proviennent quotidiennement la plupart des produits vivriers dont s'approvisionnent les habitants du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Goma, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Signalons que toutes les tentatives pour joindre la hiérarchie militaire à Goma se sont avérées vaines. 5 réfugiés burundais ont été rapatriés volontairement par les autorités militaires de la RDC mercredi dernier. Parmi eux figurait un ex-combattant Maïmaï de la 111e brigade du colonel congolais Baudouin Nakabaka. La cérémonie officielle a eu lieu à la frontière de Kavimvira, à Uvira, en présence du commandant du camp de Gatumba, le major Calixte, et de l'officier d'immigration burundaise de Gatumba, Fiston Goma Mayabala.
Oui, Alid, je dirais qu'un document attestant cette remise a été signé par les 2 parties. Ce n'est pas pour la première fois que les FRDC mènent une telle opération. Les 4 réfugiés et le ex-combattant Maïmaï burundais, qui rejoignent donc 78 autres ex-combattants qui ont été rapatriés au mois de mars, au mois d'avril dernier dans leur pays, le Burundi.
Où sont localisés les réfugiés burundais?
Ils sont localisés dans la partie sud, en fait dans les territoires de Fizi, mais aussi une grande partie des Burundais vivent dans la plaine de la Ruzizi, frontalière avec la province de Tibito-Kwarugombo.
Quelles sont les difficultés auxquelles les réfugiés burundais font face?
Certains d'entre eux que nous avons pu contacter au niveau de Baraka, au niveau de la presqu'île de Boiry, ils sont démunis, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Ils sont sans nourriture ni soins médicaux. Ils ont été même obligés de se débrouiller jusqu'à présent en faisant de petits commerces et d'autres en pratiquant les travaux champêtres pour la survie.
Des informations disent que des réfugiés burundais qui sont à Oboari et Fizi sont maintenant sous le contrôle du FNL. Est-il vrai?
Ce n'est pas vrai parce que Abine, par exemple, l'ancien quartier général du général Dunia, ex-combattant Maïmaï, qui a remis ses ex-combattants officiellement entre les mains des autorités burundaises. Donc, on n'a pas fait mention de la présence de quelques ex-combattants FNL ou bien quelques Burundais qui sont restés dans la presqu'île d'Ubuari.
Merci, Fiston Goma.
Merci, Alid, et merci à tous les auditeurs de Radio ONU et Radio Kapi.
Signalons que les 5 réfugiés burundais sont rapatriés après plus de 30 ans d'exil. Le porte-parole militaire de la MONUC en Ituri appelle les populations civiles de Tchéhi à regagner leur village, appel lancé ce samedi à Bounia au lendemain de la visite du commandant de la brigade de la MONUC dans la localité de Tchéhi. Le porte-parole de la MONUC, le lieutenant Djibril Samassa, est au micro de François-Xavier Mibé.
Après la prise de Tchéhi par les FARDC avec le soutien des casques bleus de la MONUC, il était devenu un souci majeur pour le commandement des forces de la brigade de suivre de près l'évolution de la situation du retour des populations civiles dans les localités. Hier, sur le terrain, il a été constaté un retour pour le moment timide, mais nous avons espoir que ce retour va s'amplifier dans les jours à venir. Il est demandé aux populations de regagner leur localité. Les FARDC et la MONUC restent présentes sur le terrain pour leur assurer la sécurité et l'appui nécessaire. Il faut noter que des contacts nécessaires ont été pris auprès des différentes ONG pour que dans les meilleurs délais, l'assistance nécessaire parvienne à ces populations qui ont trop souffert. Qu'il soit clair que la MONUC ne tolérera aucun comportement venant de qui que ce soit et qui mettrait en cause la quiétude, les intérêts matériels et moraux des populations civiles.
5300 électeurs de l'Ituri se sont fait soit enrôler deux ou trois fois, soit ont changé leur identification pendant les opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Le bureau de la CEI a déposé samedi une plainte au parquet de grande instance de Bounia. Cet acte constitue une infraction punissable par la loi portant identification et enrôlement des électeurs, précise le chef de bureau de la CEI. John Oukounia est au micro de François-Xavier Mibé.
Ils sont d'abord radiés de la liste d'électeurs, ils ne pourront pas voter, ça c'est de un. De deux, ils seront poursuivis par la loi. Vous savez que pendant l'identification et enrôlement des électeurs, quand l'électeur devrait se faire enrôler, il plaçait, n'est-ce pas, l'empreinte digitale sur la machine. Et dans la machine, c'est par l'empreinte digitale où il était facile de retrouver ces gens-là et avec leurs photos, tout, nous avons tous les éléments de preuve par rapport à ça, quoi. Et c'est la justice qui va maintenant faire son travail par rapport à ces gens et pour que nous puissions aussi mettre, n'est-ce pas, fin à l'impunité qui régnait depuis un certain temps dans notre pays.
Processus électoral toujours, une caravane motorisée a été organisée ce samedi à Matadi dans le Bas-Congo. Objectif, sensibiliser la population à s'impliquer totalement au processus électoral afin d'en appréhender les enjeux. Cette caravane a été organisée par la Maison des élections en collaboration avec la CEI et l'appui de la coopération technique allemande. De Matadi, une correspondance de Dani Kindanzika.
Le bureau de représentation de la Commission électorale indépendante Bas-Congo au pont Maréchal, en passant par Mpouadou, Minkondo, Site, Belvedere, Nzanza, Ami-Congo et Kinkanda, pendant des heures, une dizaine de véhicules ont sillonné toutes les trois communes de la ville au rythme de la fanfare qui attirait un monde à son passage. Pour le professeur Dieudonné Tombé, coordonnateur national de la Maison des élections, cette caravane vise à vulgariser la loi électorale dans l'optique de premières élections que la CEI se propose d'organiser prochainement. Il fallait ces matraquages pour sortir le peuple de l'ignorance et de la manipulation politique. Pour sa part, Mme Hélène Kaloussidikako, chargée de la communication au BRP CEI Bas-Congo, a encouragé la Maison des élections pour la campagne de sensibilisation qu'elle est en train de mener auprès de la population. À noter que pour la population de la ville portière, il ne suffit pas seulement de présenter la caravane motorisée, mais également parler avec la population pour qu'elle puisse mieux comprendre l'impact des enjeux électoraux. Matadi, Dani Kindanzika, Radio Okapi.
L'ONG Journaliste en danger réagit au blocage de l'accréditation en RDC des journalistes de Radio France Internationale. Pour JED, c'est une situation scandaleuse et une atteinte à la liberté de l'information. Le président du JED pense que RFI est libre d'envoyer le journaliste qu'elle estime capable de couvrir les élections en RDC. Dona Mbaya, président du JED, vient au téléphone par Kéline Couté.
Aucun texte législatif ni réglementaire en République démocratique du Congo ne donne mandat au ministre de l'Information de déterminer le nombre de correspondants qu'un média international doit avoir au pays. Ça, c'est de un. Et puis de deux, je pense qu'il appartient à RFI de choisir les journalistes qu'elle estime être les mieux à même de faire le travail en République démocratique du Congo, en dépit du fait qu'il y a des correspondants locaux et qu'il s'agit simplement d'une atteinte à la liberté de l'information.
Reformer le secteur sécuritaire en RDC, c'est une des recommandations du séminaire scientifique de Kinshasa sur les défis de la Troisième République. Selon les participants au séminaire scientifique des facultés catholiques de Kinshasa, le pilier de la naissance d'un état de droit en RDC réside dans le choix des dirigeants responsables par la population. Professeur Félicien Loukoki, doyen de la faculté d'économie et développement, joint par Nazaire Koko.
Il n'y a que des hommes et des femmes qui ont un idéal et une éthique sociale ou une éthique de société qui peuvent réellement conduire notre peuple. Nous devons nous choisir vraiment des hommes et des femmes capables de nous conduire. L'économique ne peut pas marcher si on n'a pas de bons gestionnaires, et même le social.
Le peuple doit avoir quoi comme repère pour identifier les vrais dirigeants?
Il y a d'abord l'intégrité morale, des gens qui ne sont pas corrompus, des gens qui ont le sens du bien commun, des gens qui ont une vision claire de la nation, c'est-à-dire comment conduire la nation, pour qu'il y ait un impact social, démocratique entre les dirigeants et le peuple. La compétence est aussi un des critères, mais ça ne suffit pas, parce que nous avons eu des gens compétents, mais des gens sans intégrité morale. Donc il faut et la compétence et l'intégrité morale.
Rendons-nous à présent dans la province du Katanga. Plus d'une semaine après l'ouverture de la cellule de consultation gratuite en faveur des justiciables indigents par le barreau de Lubumbashi, ceux-ci s'y rendent à compte-gouttes. Cette cellule est mise sur pied pour assister ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Ainsi, les concernés peuvent passer à la maison du barreau deux fois par semaine, soit le lundi et le mercredi. Maître Cyril Ngoy Kyobé, bâtonnier au barreau de Lubumbashi, est au micro de Jean Gandou.
L'État nous a aidés en organisant les services sociaux où on attribue les attestations d'indigence. Lorsque les services sociaux ont attribué les dites attestations-là, c'est pour nous la preuve que la personne est indigente. Mais bon, on ne peut pas exiger ça parce que pour obtenir la dite attestation, il faut engager des frais. Et donc, lorsqu'une personne se présente, vous avez l'impression que ne peut pas payer les services d'un avocat, on la considère automatiquement comme indigente. La première consultation appellera sûrement plusieurs autres consultations et éventuellement des descentes sur les lieux, des contacts avec des personnes de la famille. Il nous est toujours possible de faire une enquête a posteriori pour savoir que la personne qui prétendait être indigente ne l'était pas.
À Kisangani, plus de 60 familles de pisciculteurs ont reçu hier 500 alvins de tilapia. Cette campagne menée par la FAO et le Service national de semences vise à assurer la sécurité alimentaire de la population de Kisangani et de ses environs. Christophe Bokana, un des coordonnateurs du projet, au micro de Anselme Masson.
C'est pour permettre à tout le monde d'entrer facilement à l'obtention facile de la nourriture dans le milieu rural. Pour la première phase de la distribution, sur l'axe Ubundu, nous allons de Kisangani jusqu'à 43 km, dont le SAT se trouve à 41 à Biaro. Et sur l'axe Opala, nous nous limitons jusqu'à 56 km pour la première phase. Mais pour la deuxième phase, les activités vont aller de 50 km jusqu'à 100. Quand ça atteint le millier de 50 premiers kilomètres, les autres pisciculteurs vont retirer les alevins de meilleure qualité, comme celle que nous retirons ici, à partir de leurs sites respectifs.
Deux membres d'un détachement militaire centrafricain ont été tués et plusieurs autres blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la région de Birao. C'est à plus de 1000 km au nord-est de Bangui. Le gouvernement zambien a annoncé samedi qu'il avait décidé d'accorder des funérailles nationales à Anderson Mazoka, chef de l'opposition décédé mercredi en Afrique du Sud, qui doit être enterré lundi à Lusaka. Selon Robert Mataka, porte-parole du gouvernement, lundi sera une journée de deuil national durant laquelle de nombreuses activités seront suspendues. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie zambienne qu'un tel honneur est rendu à un leader de l'opposition qui n'a jamais occupé de position gouvernementale. Okay.